Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, l'émission qui anime le débat éducatif le dimanche sur France Culture. Montessori, collège à l'ancienne en uniforme, lycée sélectif proposant moult options, les écoles privées hors contrat se multiplient doucement mais sûrement en France. Comment expliquer leur succès? Ce nouveau privé met-il le système éducatif en danger? C'est le dossier de Rue des Écoles aujourd'hui. Au sommaire, également une actualité scolaire dense et c'est Marie-Caroline Missire du magazine L'Étudiant, notre partenaire, qui s'en charge. Bonjour Marie-Caroline, entre la grève et les annonces sur les nouveaux programmes, vous avez beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui.
En effet Louise, bonjour et je vous livrerai aussi les conclusions d'une enquête sur la radicalisation des élèves dans l'éducation nationale.
Et c'est une exclusivité, Rue des Écoles, Libby Cousteau, grand reporter à l'Express. Cette semaine, focus sur la journée de refus de l'échec scolaire consacrée aux alliances éducatives.
Absolument. Comment fédérer les bonnes volontés, famille, école, soutien scolaire? Qu'est-ce qui fonctionne sur le terrain? On en parle avec Christophe Paris, le patron de la FEV, l'association qui organise cette journée.
Et on vous retrouve à 17h45. Attachée de production, Laurence Genepin, Alexandra Malka est à la réalisation. À la technique, c'est Emmanuel Morse d'Incan. Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr pendant 1000 jours. Et surtout, vous pouvez vous abonner au podcast de Rue des Écoles. Et puis, pour réagir sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas notre hashtag RDE.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Fauré.
Aujourd'hui, nous parlons des écoles privées et hors contrat. Leurs modèles pédagogiques diffèrent, comme les valeurs qu'elles mettent en avant. Elles coûtent de quelques centaines à plus de 30 000 euros par an aux familles. Mais une chose est sûre, des écoles Montessori aux cours privés les plus sélectifs, en passant par les banlieues populaires, ces établissements marginaux se multiplient. Écoles différentes donc, mais qui promettent toutes explicitement le respect de la singularité des élèves, l'écoute des familles et surtout la réussite des enfants. Que nous disent ces discours de l'image que renvoie l'école publique aujourd'hui? Que raconte ce succès grandissant de la perte de confiance en cette institution? Enfin, la multiplication de ces écoles, si disparate soit-elle, dessine-t-elle l'avenir du paysage scolaire français? Un paysage plus diversifié, contrasté et peut-être plus inégalitaire, dont l'école de la République ne serait plus l'épicentre. Peter Gumbel, bonjour.
Bonjour Louise.
Vous êtes journaliste britannique, on va l'entendre à votre accent. Vous êtes passionné d'éducation, si je dis ça, c'est parce que vous en êtes à votre troisième livre sur le sujet. Vous avez fait un tour de France des écoles alternatives. Le titre de votre livre, Ces écoles pas comme les autres, à la rencontre des dissidents de l'éducation. C'est publié à la librairie Vuibert. Vous en voulez à notre modèle scolaire? Il vous paraît soviétique? Il a aujourd'hui ses dissidents, ses rebelles?
Alors, c'est pas moi qui a un problème avec l'école française républicaine. Ce sont les parents, surtout, qui cherchent désespérément autre chose parce qu'ils se rendent compte que cette école ne fonctionne plus. Donc, il y a trop de problèmes, il y a trop d'échecs, une performance qui se dégrade et surtout les inégalités sociales qui sont en train de monter de façon inquiétante.
Bing sur la tête de l'école française, je crois que le propos est clair. Arnaud Parianti, bonjour.
Bonjour. Victor.
Vous êtes enseignant, professeur agrégé de sciences économiques et sociales. C'est donc le regard d'un économiste que vous portez sur l'école. Vous avez réalisé une enquête, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Votre ouvrage s'appelle School Business, comment l'argent dynamite le système éducatif. Est-ce que c'est le cas plus aujourd'hui qu'hier?
Incontestablement. Beaucoup, beaucoup plus d'utilisation de l'argent, une offre de plus en plus diversifiée et une demande extrême de la part des parents.
Est-ce que cela signifie que les familles ont de moins en moins d'état d'âme à financer et parfois de manière très très importante les études de leurs enfants et même dès la maternelle ou dès le collège?
Je crois que dans un univers qui est gouverné par une concurrence scolaire intense, qui est la conséquence de la massification scolaire, et également dans un monde qui est dominé par la peur que nos enfants ne trouvent pas d'emploi, il est logique que l'investissement scolaire des familles augmente, qui est la réponse à leur propre stress en réalité.
Voilà, et peut-être aussi à une perte de confiance, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, dans le modèle de l'école publique. Albéric de Serran, bonjour.
Bonjour, Louise.
Alors, vous êtes aujourd'hui notre cas d'école, je m'explique. Vous êtes directeur pédagogique et éducatif du cours Alexandre Dumas. Alors, vous aussi, vous publiez un livre, Je veux faire battre le cœur de l'école, écrit avec Émilie Refait, c'est publié chez Jean-Claude Lattès.
Une très bonne plume, Émilie. Très bonne plume.
Elle appréciera. Vous voulez faire battre le cœur de l'école, mais c'est pas l'école en général, c'est le cours Alexandre Dumas. Quel est votre projet? Quel est votre modèle? Je précise que votre établissement est installé à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis.
Nous éveillons, c'est vraiment notre objectif, nous éveillons des personnes qui deviendront les adultes de demain, avec nos petits moyens, dans des quartiers qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et quand je dis petits moyens financiers, pour ce qui est des moyens éducatifs et pédagogiques, ils sont grands, ils sont très divers. Et nous ne nous centrons pas sur une maison de fabrication, mais plus exactement, nous nous inspirons de l'intelligence eh bien, des établissements scolaires publics, sous contrat, hors contrat. Et nous sommes attentifs eh bien, aux besoins de ces enfants qui se révèlent dans ce qui est le point crucial et fondateur de notre établissement, un petit effectif.
C'est ce qui vous distingue de l'école publique, cette attention spécifique, parce qu'on entend ça en creux quand même.
Ce qui nous distingue, c'est que c'est une attention qui est en écho d'un appel et des professeurs et des parents d'un besoin d'un petit effectif pour certains élèves. Et donc, nous nous situons comme une complémentarité, un outil complémentaire, attractif et important pour aider des enfants à se servir du cours Alexandre Dumas comme un tremplin et retourner dans le système scolaire par la suite.
Bon, j'imagine que les auditeurs se posent déjà plein de questions sur votre mode de financement et de fonctionnement. On y revient tout à l'heure. Je vous propose d'écouter eh bien, notre page d'actualité avec Marie-Caroline Missire. Une actualité très riche, nous allons la décrypter ensemble. Marie-Caroline, je voulais commencer par les nouveaux programmes et les déclarations de la ministre vendredi matin. Alors, elle qui voulait repenser l'évaluation, hein, c'était un grand projet du ministère de l'Éducation, parle de faire faire des dictées quotidiennes aux élèves.
L'intérêt fondamental de ces nouveaux programmes, c'est qu'ils vont garantir que les apprentissages des élèves soient solides. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'ils étudient, qu'ils répètent, qu'ils mémorisent pour maîtriser chacun de ces apprentissages. Et pour bien maîtriser, ça passe par de l'entraînement quotidien. Donc à l'école primaire, une dictée quotidienne, des exercices de calcul mentaux quotidiens, de la lecture quotidienne, parce que l'essentiel, c'est la maîtrise du langage.
Au micro de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, alors on verra ce que ça donne sur le terrain. J'imagine que les enseignants ont de l'imagination, mais que retenez-vous de ces déclarations de la ministre Marie-Caroline ?
La ministre a frappé fort, surtout sur le plan de la communication. On lui avait beaucoup reproché de pas avoir assez mis en avant l'idéologie, ou en tout cas la visée politique de la précédente mouture des programmes. Cette fois, elle publie une tribune dans Le Monde sur la visée, le retour aux fondamentaux. Donc elle adresse un gros clin d'œil à ce qu'on appelle avec plein de guillemets les réacs. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé. Sur Twitter, les syndicats sont en train de s'invectiver, se traitant les uns de réac, les autres de pédago, parce que remettre la dictée sur le devant de la scène, c'est un épouvantail pour une partie de ces syndicats. Je relève certainement le tweet de Christian Chevalier de l'UNSA, qui reproche à la ministre d'adresser un clin d'œil aux réactionnaires.
Grève cette semaine, jeudi. Quel bilan, Marie-Caroline ?
16% de grévistes selon l'éducation nationale. Au vu de ces chiffres, on peut dire que la première mobilisation de la rentrée est un échec. Mais attention, ce serait aller bien vite, trop vite. Pourquoi ? Parce que le taux de grévistes ne reflète en fait qu'à la marge, sauf cas très rare maintenant, l'humeur des enseignants ou leur degré d'adhésion au projet du ministère. Une frange en fait assez mince de la profession est aujourd'hui en mesure de sacrifier un jour de salaire, 80 euros à peu près, pour exprimer ce mécontentement. Écoutez ce qu'en disait David, professeur d'éducation musicale, c'était jeudi matin sur France Inter.
On a envie que les cours soient les mêmes à Poitiers, à Lille ou à Marseille ou à Paris. On ne comprend pas bien comment ça va être possible de mettre en place un enseignement pluridisciplinaire, donc sur la base d'initiatives individuelles, avec une cohérence nationale. On n'a pas de réponse là-dessus sur le contenu. On a l'impression qu'on est dans une espèce de fantasme d'école qui n'existe pas encore, de quelque chose rapide, absolument, qui doit tenir dans un quinquennat. On a besoin de choses très stables pour les élèves et pas d'effet d'annonce comme on a l'impression que c'est.
Autre signal inquiétant pour la ministre, les réserves exprimées par les syndicats qui soutiennent la réforme. C'est le cas de Frédéric Seff, secrétaire général du SGEN-CFDT, toujours au micro de Sonia Bourane.
On ne se donne pas les moyens d'appliquer correctement une réforme qui est ambitieuse, mais tout de même complexe à mettre en œuvre. Se donner les moyens, ça veut dire donner du temps aux équipes pédagogiques pour se concerter, pour travailler ensemble et préparer la rentrée. Pour l'instant, le ministère ne donne au personnel qu'une perspective de formation individuelle et fort peu ciblée sur la réforme, puisqu'il n'y a que 3 jours sur 8 qui concernent véritablement la réforme.
Vos conclusions, Marie-Caroline ?
Eh bien, le sentiment que les enseignants subissent des changements imposés par le haut, une réforme top-down, comme on dit dans les cours de management, qu'ils comprennent mal et sur laquelle ils ont le sentiment de ne pas avoir de prise. Les syndicats, toujours eux, sont pourtant à la manœuvre dans les négociations. Ils ne jouent plus leur rôle de représentation du corps et ne parviennent pas à transformer cette humeur en colère. La tentation du repli, la désespérance, voilà des mots qui pourraient décrire l'état d'esprit de la profession aujourd'hui.
Quel optimisme. Alors pendant ce temps, au ministère, le cabinet appuie sur le champignon.
Il faut aller vite, et de plus en plus vite, les nouveaux programmes, vous l'avez dit tout à l'heure, présentés vendredi, la réforme de l'évaluation, tout doit être bouclé d'ici la fin de l'année. Il se murmure que la ministre, qui vient d'officialiser sa volonté d'être candidate dans le Rhône pour les législatives, aurait d'autres ambitions que l'éducation nationale, une fois les régionales passées en décembre.
Ça, c'est une info. Je note que vous entendez drôlement bien les rumeurs. Vous avez également repéré que le ministère recruter aussi des recteurs en ce moment.
C'est ce qu'on appelle un mouvement de recteurs. Il a eu lieu il y a une dizaine de jours maintenant. Il ne s'agit pas de plaques tectoniques, encore que, mais d'un brusque changement au sommet de la pyramide d'éducation nationale. Certains recteurs sont remerciés, de nouveaux prennent leur place, d'autres sont mutés dans une autre académie. Mais comment sont choisis ces recteurs? Comment sont-ils repérés? En fait, il existe des chasseurs de recteurs, un peu comme les chasseurs de têtes. Ce sont aussi eux qui entretiennent le buzz autour d'un universitaire, le cooptent en quelque sorte auprès du directeur de cabinet, des conseillers de l'Élysée, de Matignon. Chacun mène sa petite enquête, croise ses infos sur l'impétrant avant de soumettre son nom au directeur de cabinet du ministre, puis au ministre lui-même. Le bon profil aujourd'hui, c'est une femme, avec des qualités intellectuelles indéniables, des qualités de communication reconnues, ou une carrière dans l'administration. Si vous voulez, vous pouvez postuler, Louise.
Ah, ce serait une bonne immersion au cœur de l'éducation nationale. Alors, à propos de recteurs, vous savez, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est paru la semaine dernière sur les dépenses de l'éducation nationale, évidemment. Comme toujours avec la Cour des comptes, il faut faire beaucoup d'économies, y compris du côté des recteurs.
L'éducation nationale peut-elle se permettre encore toutes ces dépenses? Exemple, avec les 30 recteurs d'académie déployés en France, de très hauts fonctionnaires, très bien traités. L'an dernier, leur prime est passée de 15 000 euros à plus de 26 000 euros. Et ça s'ajoute au logement de fonction, à la voiture avec chauffeur et au cuisinier. Peut-être, mais selon cet ancien recteur, c'est justifié.
Un recteur, il est 24 heures sur 24 au service du gouvernement, mais aussi au service des élèves, des professeurs, etc. Il est corvéable à merci. Eh bien, évidemment, ça a un coût et il faut l'aider à accomplir ses tâches.
C'était le week-end dernier dans le JT de France 2. Un mot sur 2 études incontournables cette semaine, Marie-Caroline.
La première est pilotée par l'Institut français de l'éducation et l'ENS de Lyon avec le chercheur Roland Guagou aux manettes. Cette étude met un terme à des décennies de guerre idéologique autour des méthodes de lecture.
Alors moi, je parie que non. La guerre n'est pas terminée, mais continue.
On en reparlera très bientôt. Deuxième étude moins encourageante, celle de l'OCDE, les élèves et les nouvelles technologies, qui a été présentée cette semaine. Mauvaise nouvelle, l'équipement numérique d'un pays est inversement proportionnel à la réussite de ses élèves.
Et oui, on en reparle la semaine prochaine, parce que c'est le sujet du prochain numéro 2 rue des écoles. Et la lecture, c'est pour dans 15 jours. Allez, dernière info, c'est une exclusivité, c'est la première fois qu'un média s'en fait l'écho.
Le ministère a diffusé en interne un premier bilan des mesures prises pour lutter contre les phénomènes de radicalisation après les attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier. Au total, ce sont 816 signalements d'élèves radicalisés qui ont été remontés par l'éducation nationale pour l'année scolaire 2014-2015. Mais ce qui est intéressant et ce qui n'a pas été du tout rendu public, c'est ce que dit le ministère sur leur profil.
Je les cite, « Ces jeunes radicalisés étaient l'an passé le plus souvent issus de la petite délinquance, parfois suivis par l'aide sociale, ayant connu des séjours en prison. Désormais, 50% des jeunes recrutés par les filières djihadistes sont inconnus des services de police ou de gendarmerie. Ils sont en outre issus des classes moyennes, voire de milieux aisés, qui n'ont aucun lien avec l'islam et sont le plus souvent athées. » Et c'est signé le ministère de l'Éducation nationale.
Merci beaucoup Marie-Caroline. Albéric de Serran, un petit commentaire sur l'actualité quand j'ai lu la description de votre école, donc le cours Alexandre Dumas, école hors contrat à Montfermeil. On voit que ouais, c'est une école en uniforme, il y a une levée du drapeau tous les matins. Les dictées quotidiennes préconisées par la ministre de l'Éducation, c'est un peu ça aussi vos méthodes ?
Il faut faire toujours attention au balancier, c'est-à-dire qu'on ne doit pas passer de l'extrême à l'autre. Il n'y avait pas, maintenant il faudrait en avoir tout le temps. Donc c'est à nous de professeurs de cibler le mieux possible l'intelligence de l'application et de la pratique de cet outil qui est la dictée, en ne faisant pas trop long et pas trop souvent aussi.
Alors avant de revenir sur ce projet d'école bien particulier, hein, qui est le cours Alexandre Dumas, Peter Gumbel, je me tourne vers vous, puisque vous avez fait un peu le tour de ces nouvelles écoles. Est-ce qu'elles se multiplient ? Est-ce qu'on assiste à un phénomène ? Et comment vous l'expliquez ?
Alors d'abord, oui, c'est sans doute la tendance d'aujourd'hui, donc ouvrir une école privée au contrat. Donc on est à peu près à une cinquantaine par an. Ça reste quand même un phénomène plutôt marginal parce que bon, l'éducation nationale est énorme.
12 500 000 élèves,
et,
oui.
Et l'enseignement catholique aussi à côté donc reste extrêmement important. Mais ceci dit, il y a une recherche de plus en plus importante de la part des parents pour autre chose, soit parce qu'ils sont désespérés pour leurs enfants qu'ils trouvent en situation de difficulté déjà à l'école, soit parce qu'ils cherchent autre chose qui est peut-être plus heureuse, plus sympa et peut-être surtout avec plus de créativité. Surtout, on trouve par exemple, ce sont les écoles Montessori qui en accotent pour l'instant. Et là, on met l'accent sur la créativité, sur l'autonomie. Ce sont des idées très, très sympathiques pour les parents.
C'est intéressant. Alors, vous opposez heureux et sympa à ce que peut être l'éducation nationale aujourd'hui, un monde malheureux et antipathique. C'est ça, en fait, qu'on lit en creux, dans le portrait des écoles alternatives.
Le malheur est là. Donc, si vous regardez les chiffres, le nombre d'élèves qui ont des difficultés, maintenant, on est presque sur 1 sur 4. Donc ça, c'est pour un pays comme la France, c'est énorme. C'est même la honte. Donc, La question se pose, est-ce qu'il y a des alternatives ? Et il faut dire que, bon, moi je suis britannique, je suis absolument pas choqué par l'idée d'avoir tout un univers d'écoles privées, quasi privées, tout à côté de l'éducation publique. C'est normal. C'est qu'en France, avec cette notion, cette vision magnifique de l'école républicaine, totalement publique, gratuite, laïque, etc., là, on est choqué de voir quelques tentatives de faire autrement. Mais pour moi, il me semble que c'est la bonne voie.
Rassurez-nous. D'abord, quand je dis école antipathique et malheureuse, c'est pas une opinion. Je dis que c'est ce qui se dégage de la lecture de votre ouvrage. Ensuite, il y a aussi des initiatives dans l'école publique, à l'intérieur de l'école publique, on peut peut-être le préciser. Ouais. Et vous les décrivez dans votre ouvrage. Bon, au cœur de tout ça, il y a quand même la question financière. Parce que si l'école est publique, c'est parce qu'elle est financée par nos impôts. C'est aussi le cas de l'école privée sous contrat. Ces écoles alternatives ont des modes de financement tout à fait différents. Elles peuvent atteindre des prix délirants. Je me tourne vers l'économiste Arnaud Parianti. D'abord, ça vient aussi un peu de l'enseignement supérieur où, pour se payer la réussite, on a vu qu'il fallait y mettre les moyens.
Oui.
Ça se diffuse.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait quelques secteurs comme les écoles de commerce qui traditionnellement étaient payantes. Et puis, c'est en train d'envahir la totalité du système. L'université est doublée pratiquement dans tous les domaines, en tout cas dans tous les domaines d'excellence par des réseaux de grandes écoles. Et les grandes écoles gratuites deviennent de moins en moins nombreuses et de moins en moins gratuites.
Même là où on pense que c'est public, par la faculté de médecine, finalement, il faut se payer des cours supplémentaires et ça coûte un prix monstrueux aux familles.
Ça coûte relativement cher, oui. Bon, Sciences Po Paris est une école publique. 13 700 € par an pour les personnes qui ont un revenu confortable, c'est quand même déjà beaucoup. Et 10 000 € pour, par exemple, quelqu'un qui aurait aux alentours de 30 à 40 000 euros de revenus annuels pour un ménage.
Avec un système de bourse, je le précise, puisque
Un système de bourse, d'accord, mais dès qu'on a des revenus moyens, on est justifiable de 10 000 euros par an en second cycle à Sciences Po Paris.
Quelle est votre lecture, Arnaud Parentier ? Est-ce qu'on se dirige vers un système à l'américaine où finalement l'éducation va coûter de plus en plus cher et où il va falloir organiser son budget en fonction des aspirations scolaires qu'on a pour ses enfants ?
Alors pour l'instant, on est très loin d'un système à l'américaine. L'essentiel de l'école demeure gratuite. Le rôle de l'État demeure essentiel. Je voudrais d'ailleurs faire une remarque à ce sujet concernant le privé hors contrat. Il y a deux privés hors contrat en fait. Je crois qu'il faut bien distinguer ce privé très cher qui est financé essentiellement par les parents, qui constituait pour l'essentiel d'entreprises commerciales, et puis un privé hors contrat comme le cours Alexandre Dumas, c'est-à-dire un privé qui est financé par des fondations.
Alors, j'allais y venir.
Et alors, le financement par la fondation signifie que le financement est en partie public, bien sûr. Puisque quand une entreprise comme AXA finance la fondation qui vous finance, eh bien, c'est autant d'argent qu'elle ne paye pas en impôts sur les sociétés, bien entendu. Donc c'est un cadeau fiscal que l'État fait, ce qui signifie que l'État finance finalement à hauteur d'à peu près 30% une école comme la vôtre. Indirectement, bien sûr.
En rejoignant cet argument en disant que quand même nous avons nos parents pour chaque élève qui paie 75 € oui, par mois. Parce que il est de cet acte de poser une décision, d'assumer justement cette décision de mettre un peu à part l'enfant dans un contexte hors classique, et donc dans ce contexte hors contrat, dans le sens où sur le plan financier, il nous faut absolument aider les parents à se responsabiliser. Donc c'est vraiment un appel à la fois qui nous aide, mais aussi qui est pédagogique.
L'école gratuite, en fait, ça déresponsabilise les familles.
Je vous vois venir.
Non, je vous pose forcément la question.
Avec vos gros sabots, est-ce que pédagogiquement, les parents doivent payer pour apprendre conscience de l'importance de l'avenir de leur enfant ? Je ne suis absolument pas armé et je n'ai pas la qualification pour pouvoir analyser une telle chose. Mais sur mon terrain, la première année, nous avions des uniformes que nous avons remis gratuitement d'une valeur de 150 €. Les vêtements, dans le comportement des enfants, n'étaient absolument pas respectés. Et nous avions des sweats, des polos qui traînaient par terre. Donc nous avons mobilisé les parents et les parents ont dit « il faut qu'on participe, comme ça, ça donnera une valeur à ces vêtements, aux yeux des enfants et à nos yeux ». Et du coup, ben, nous avons décidé effectivement de couper la poire en deux et il y a une participation financière des parents. Et c'est vrai que maintenant, les sweats ne traînent plus. Donc cet exemple, est-ce qu'il va devoir illustrer sur l'ensemble des données de notre réflexion éducative pour savoir s'il faut que maintenant tous les citoyens français doivent payer ? Très honnêtement, ce serait fausser le débat. La seule chose qui est sûre, c'est que aujourd'hui, nous avons besoin dans nos quartiers de cette mobilisation de gens qui trouvent aussi leur fierté à pouvoir participer à l'avenir de leur enfant, mais de manière humaine et cohérente avec leurs moyens financiers.
Je pense qu'on va tous avoir des réflexions à faire sur ce thème, de la responsabilité et de l'engagement des familles. Pour bien comprendre ce qu'est le cours Alexandre Dumas et les écoles de la Fondation Espérance Banlieue, je vous propose d'écouter l'extrait d'une vidéo qui est présente sur votre site. C'est Harry Roselmack, le journaliste vedette de TF1, qui a rencontré des élèves dans les locaux de la chaîne. Et voici ce qu'il dit sur l'école.
Vous êtes venu dans notre école et maintenant vous êtes notre parent.
Oui.
Et pourquoi ?
J'ai lu un petit peu ce que faisait le cours Alexandre Dumas, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'ai décidé de venir vous voir. Votre école est une école qui est importante dans des quartiers qui sont des quartiers urbains où il y a une concentration de jeunes importante et où il n'y a pas forcément les structures en face qui permettent de leur donner toutes les chances qu'ils méritent d'avoir.
Si vous aviez 10 ans, vous auriez aimé venir au cours Alexandre Dumas ?
Ah, certainement. C'est une école qui est un peu plus sur mesure. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas demander à l'éducation nationale de faire du sur mesure pour tous les enfants, mais il faut pouvoir aller chercher chez chaque enfant ce qu'il a comme potentiel. Et c'est vrai que plus il y a d'écoles différentes et plus chacun peut trouver sa place.
Et aujourd'hui, vous pensez qu'il devrait y avoir plus d'écoles comme le cours Alexandre Dumas ?
Oui, bien sûr, parce que ce qui se fait à Montfermeil doit pouvoir se faire ailleurs.
C'est la fin de cette interview.
Pour finir, je voudrais dire que si je suis là, c'est pour soutenir le cours Alexandre Dumas, évidemment.
parce que les banlieues ont besoin d'écoles privées, elles aussi. Elles ont besoin de diversifier l'accès à l'éducation et que la chance qu'ont ces enfants qui ont retrouvé, je le crois, goût à l'école grâce au cours Alexandre Dumas, mais d'autres enfants méritent d'avoir cette chance aussi.
Les banlieues ont besoin d'écoles privées. Voilà qui laisse extrêmement songeur. On passe d'une proposition alternative à un droit qui serait celui de choisir une école privée comme si l'école publique était un choix par défaut. Voilà qui remet en cause non seulement l'histoire de l'école, mais aussi ce qui se noue autour de cette école. Quelque chose qui a à voir avec le pacte républicain. J'aimerais avoir votre opinion, Arnaud Parianti.
Incontestablement, si on développe une offre privée, on développe les possibilités de choix, on développe aussi les inégalités dans les manières dont les enfants sont éduqués, c'est certain. En même temps, il faut bien admettre que le développement de l'offre privée surfe largement sur les déficiences de l'école publique, bien entendu. Si une offre privée a trouvé sa place, c'est parce que il y avait effectivement des manques qui apparaissaient aux parents, de telle façon que le consentement à payer a beaucoup augmenté, y compris dans les banlieues défavorisées, parce que c'est dans les banlieues défavorisées que souvent l'école publique est la plus en difficulté, c'est sûr. Il est certain que l'idée de base selon laquelle il faut que chaque école dispose des mêmes moyens est une idée tout à fait insuffisante. On a essayé de faire de la discrimination positive et on se rend compte aujourd'hui qu'on n'est probablement pas allé suffisamment loin pour que ça donne des résultats efficaces. Et il est certain que si l'école publique était capable de dire que dans des quartiers particulièrement défavorisés, on peut avoir par exemple les effectifs relativement faibles qu'il y a dans votre école, certainement qu'on pourrait obtenir des résultats intéressants. Mais on n'a jamais été en mesure de faire ça pour l'instant.
Il y a aussi une grosse différence, c'est que dans les écoles privées, hors contrat ou sous contrat, on choisit ses élèves, on les sélectionne, alors que l'éducation nationale doit gérer l'ensemble des situations, y compris les plus difficiles in fine. Marie-Caroline Messier a une question pour vous.
Oui, en vous écoutant Arnaud Parianti, je crois qu'il faut peut-être admettre une réalité aujourd'hui, qu'on est dans un système qui est dual. On fait en France comme si finalement l'enseignement public était la norme et qu'il y avait une exception qui est l'enseignement privé. C'est plus une exception aujourd'hui. On a un système qui marche sur deux pieds. Vous y avez consacré un livre, vous le savez parfaitement. Et oui. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne reconnaisse pas cette réalité. Oui, il y a un enseignement privé qui prospère, il faut en tirer les conséquences. Cessons de le voir comme une exception qui ne devrait pas exister. Les accords de Bray ont maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Il faut s'en remettre.
Moi, c'est ce constat qui m'a poussé à écrire ce bouquin, effectivement. C'est-à-dire que on entendait parfois vitupérer contre le risque éventuel de marchandisation de l'école qui serait situé dans un futur lointain, qui serait lié à un monstre anglo-saxon, à l'irruption des fonds de pension, que sais-je encore. Et puis quand on enseigne dans les beaux quartiers, comme c'est mon cas depuis quelques années, on se rend compte qu'en réalité c'est tout un système parallèle. Mmh. Hein, j'ai évoqué l'idée de système fantôme, un peu comme le shadow banking system, c'est-à-dire un système parallèle qui va de la maternelle à l'université et qui finalement fournit des prestations complémentaires à celles de ou alternatives à celles de l'école publique. Et ça fait système, en effet, ça fait système. C'est-à-dire que il y a toutes sortes de formations privées, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il en existe un grand nombre, et en particulier celles qui sont les plus onéreuses, dont la logique est de permettre aux catégories sociales qui ont les moyens de se payer ces services d'éducation, d'acquérir un avantage compétitif pour leur progéniture à tous les échelons du système scolaire.
It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for
it's overdue. So let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone. It's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice telling me it's crystal clear. Although
écoutez Rue des Écoles sur France Culture. Nous parlons des écoles privées, ou plutôt des nouvelles écoles privées, et de tous ces dispositifs payants qui finissent par remettre en cause le système de l'école publique et l'égalité devant l'éducation. On en parle avec, entre autres, Peter Gumble. Vous avez fait un tour de France des écoles alternatives. Vous parlez de dissidents de l'éducation. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui pousse les parents à s'adresser à ce type d'établissement? Vous avez parlé de motifs pédagogiques. Alors, qu'est-ce qu'on propose de si désirable dans les écoles Montessori?
Alors, les écoles Montessori sont un exemple parmi
d'autres. Pour prendre un exemple.
Simplement, dans toutes ces écoles-là, on trouve vraiment des tentatives de faire différemment. Par exemple, Montessori, c'est vraiment l'accent mis sur la créativité, sur l'autonomie. Et pour les écoles maternelles, surtout, c'est très intéressant. On est un peu inspiré par les exemples aux États-Unis. Si vous allez voir donc l'éducation des Google Boys ou les grands de Silicon Valley, ils ont tous fait les écoles Montessori.
Larry Page sort de Montessori.
Voilà, Jeff Bezos d'Amazon ou Jimmy Wales de Wikipédia, parce que finalement, c'est ça, la créativité qui commence très jeune.
C'est ça qu'on achète en payant 8000 euros par an, la scolarité d'un enfant de maternelle?
Oui, c'est sûr. Il y a aussi, j'ai déjà évoqué le mot bonheur, bien-être. Mmh. C'est quand même non négligeable dans la tête des parents, parce que assez souvent, ils voient souffrir leurs enfants à l'école publique et ils disent, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Je ne voudrais pas qu'on véhicule ce genre de... Il y a beaucoup d'enfants qui sont très heureux à l'école publique.
Mais c'est sûr, c'est sûr. Mais s'ils sont heureux, donc les parents ne cherchent pas des alternatives. C'est ceux qui ne sont pas heureux qui sont... donc là, on cherche autre chose. Mais il y a aussi, par exemple, des écoles qui ont des relations avec des parents qui sont complètement différentes, beaucoup moins crispées. Donc, un accueil des parents dans les écoles, au sein des établissements, qu'on trouve rarement dans les écoles publiques. Il y a aussi, par exemple, j'ai visité une école qui est spécialisée dans les troubles d'apprentissage, dyslexie, dyspraxie. Et là, on sait que l'école publique a du mal et les enseignants ne sont pas du tout formés pour bien détecter les difficultés et surtout pas pour les aider à surmonter les enfants. Et donc, il y a un peu de tout. Ce que j'ai trouvé quand même qui m'a le plus impressionné, c'est que voilà, il y a de plus en plus d'écoles publiques aussi qui font des choses différemment, qui ont la possibilité pour la première fois d'expérimenter. Et ce sont surtout des écoles dans les banlieues les plus compliquées, où on trouve une équipe d'enseignants très motivés qui veulent faire autrement. Et là, ça me donne
comme
un peu de l'espoir.
Les micro-lycées, par exemple.
Voilà.
Alors, ce qu'on pourrait peut-être distinguer comme point commun, c'est la cohérence du discours de ces établissements qui proposent quelque chose d'assez lisible. C'est peut-être un peu moins le cas pour les écoles publiques parce qu'il y a plus de diversité aussi. Et je rappelle qu'on n'a pas tous forcément cette vision malheureuse de l'école publique comme celle qui ressort en creux de votre ouvrage. La cohérence du discours, c'est ce que vous mettez un petit peu en avant aussi, Albéric de Serran. Vous vendez, entre guillemets, quelque chose de très clair, de très explicite aux familles.
Merci. Oui, le cours Alexandre Dumas propose de s'appuyer sur l'éveil de l'enfant, parce que c'est véritablement ce que un ministre de l'éducation, un député, un élu local souhaite pour chaque enfant et chaque citoyen, un éveil pour être le citoyen de demain. Et l'école passe par là.
Mais ça, n'importe quel enseignant pourrait le dire.
L'exception du cours Alexandre Dumas, c'est de faire de cet enfant que vous avez entendu poser des questions à Harry, Anissa.
Harry Roselmack, journaliste de TF1 qui soutient votre démarche.
Anissa est arrivée, elle sortait de 5e en lycée public, elle était en vraie difficulté, absolument pas avec des parents opposés au public. Au contraire, même son père est un élu. Et c'est une enfant qui a fait la 4e, la 3e, parce qu'elle avait besoin de méthodologie. Ce que ressentaient des professeurs qui ont un effectif énorme, qui ont un cœur énorme, ces professeurs qui se battent depuis des années et des années pour essayer de mettre en pratique ce que nous, nous avons le luxe de mettre en pratique avec un petit effectif, mais avec le choix de ne pas être soutenu financièrement. Et c'est cela qui fait que Anissa, aujourd'hui, est en lycée public et que ça marche et qu'elle est contente d'être retourné dans son lycée public. Younes, qui a posé aussi des questions, eh bien lui, il a fait sa 6e, sa 5e, et il passe en 4e parce qu'il a envie de cette expérience, plutôt du brevet, avec des notes continues dans l'année, au lieu d'avoir ce stress d'un brevet qui l'attend à la fin de l'année, comme un examen avec 0 point en avance. Parce que c'est ça aussi le statut de l'élève du hors contrat, c'est que lui, il n'a pas de contrôle continu. Et quand il arrive en examen, il a 0 point.
Ça éclaire un peu sur la situation de vos élèves. Merci pour ces exemples précis. Arnaud Parianti, quand on écoute ces descriptions précises pour le cours Alexandre Dumas ou les descriptions de Peter Gumbel, on entend qu'il y a comme une forme de supériorité morale de ces écoles dans le discours. Hein, respect pour les individus, respect de la singularité, accueil des familles. Quel miroir cela tend à l'école publique ?
Ah ben c'est sûr que le privé ne peut prospérer que sur les insuffisances de l'école publique, réelles ou supposées. On le voit également pour les entreprises qui fournissent des petits cours et qui, en creux, dessinent l'image d'une école publique effectivement bureaucratique et incapable de s'intéresser suffisamment aux élèves, de respecter leur personnalité, etc. Du point de vue du marketing, c'est forcément comme ça que l'école privée doit se placer, oui, bien sûr. Ça n'est pas étonnant.
Moi, je ne me place pas comme ça. Je ne me place absolument pas et notre dispositif de la FEB ne se place pas comme ça. Nous ne nous reconnaissons absolument pas et dans le livre, nous le témoignons. Nous sommes à l'écoute des professeurs et si nous sommes sur ce terrain de notre banlieue, c'est parce que d'abord, il y a une force réelle d'enfants qui sont là-bas. Et la deuxième chose, c'est que nous entendons la détresse des professeurs qui, eux, depuis 30 ans, avant que nous nous sommes arrivés, bébés que nous sommes depuis 3 ans, sont là en train de véritablement voir les besoins. Et parce qu'il y a un trop gros effectif, parce qu'ils ont une succession de programmes qui se contredisent et qu'ils doivent appliquer. Et donc, il y a un moment donné où on doit humblement venir et dire, eh bien, écoutez, voilà, on ne prétend pas faire mieux que vous. On est là pour vous aider, vous seconder. Et bien évidemment, nous ne sommes pas en opposition, mais véritablement en complémentarité. C'est ça la République française. Et si les enfants, dans la vérité, le vivent déjà au sein d'une école privée et publique, en voyageant sur le plan scolaire, parce que ça répond à un besoin, mais pourquoi on s'opposerait ? Ce serait absolument destructeur.
Certaines formes de défense de la République, Arnaud Parianti.
Oui, cela dit, sur un plan quantitatif, le nouveau privé, c'est d'abord du privé commercial. À la fois en nombre d'élèves, en chiffre d'affaires, en investissement des fonds anglo-saxons. On parle quand même d'entreprises qui mettent des milliards sur la table.
Ah mais il y a un formidable marché.
Bien entendu. Donc, je ne dis pas que votre expérience financée par une fondation fait partie de ce mouvement, bien entendu. Mais ce mouvement est quand même relativement massif. C'est tout.
On peut imaginer un marché totalement parallèle d'écoles à but lucratif. Ça existe à l'étranger, après tout.
Et on peut tout imaginer. On peut aussi imaginer un système entièrement public, extrêmement égalitaire et qui fonctionne bien. Ça existe en Allemagne, ça existe en Suède. Ça a même existé un petit peu autrefois en France. Mais n'oubliez pas qu'en France, on a quand même une très très longue tradition d'enseignement privé, avec notamment l'enseignement privé
catholique. Et de guerre scolaire.
Et de guerre scolaire aussi, bien sûr.
Cette école publique, et c'est un peu ça la question que je voulais vous poser tout à l'heure, en parlant de magistère moral. on a l'impression qu'elle se défend pas très bien, qu'elle est pas très bien assise sur ses valeurs et qu'elle n'oppose pas un discours cohérent à ses alternatives en proposant finalement un projet qu'on connaît pourtant historiquement en France.
Mais si vous voulez, enfin, d'abord, moi, j'ai écrit un... Je suis enseignant dans l'enseignement public.
C'est bien pour ça que je vous pose la question.
Oui, mais ça ne fait pas de moi nécessairement le défenseur de l'enseignement public. Je veux dire que dans mon lycée, je pense qu'on travaille bien. Et de ce fait, d'ailleurs, les élèves ne cherchent pas du tout à fuir, malgré une offre privée fort abondante dans le quartier, je peux vous l'assurer. Donc, on peut être tout à fait compétitif. La question se pose pas toujours comme cela. De fait, on constate, si vous voulez. Alors, quand vous dites, comme monsieur Sand dit qu'il y a des allers-retours entre le privé et le public, et qu'il n'y a pas nécessité de rallumer une guerre de religion, je crois que c'est vraiment l'attitude dominante des parents, qui sont extrêmement pragmatiques par rapport à cette question. Ils ont d'abord envie d'un service. Ils ont besoin qu'on éduque leurs enfants et ils ont besoin que leurs enfants accèdent à l'emploi, accèdent aux diplômes et en même temps se forment en tant qu'individus. Je suis bien d'accord avec ça. Et ils essaient de trouver la meilleure façon d'obtenir cela. Alors, il existe une combinaison aujourd'hui de public et de privé qui permet de le faire. Simplement, il faut évidemment pas oublier que ces services ne sont pas nécessairement gratuits et donc que l'accès à ces services est extrêmement différencié selon le milieu social auquel on appartient.
Peter Gamble.
Pour moi, il y a une chose qui est assez importante, qui est l'uniformité du système public. On insiste sur l'égalité, on a une notion d'égalité, ce qui est à peu près tout le monde fait la même chose en même temps. Et c'était pas toujours comme ça. Par exemple, Maria Montessori, déjà en 1913, la première école Montessori a été créée à Paris. C'était une école publique. Donc, dans les années 50, au moment où on a créé l'association Montessori de France, dans le conseil d'administration de cette association était le ministre de l'Éducation et deux autres ministres. Et c'était quand même avec l'idée de créer des écoles Montessori publiques. Et là, du coup, ce qu'on trouve en France, c'est tout ça, c'est privé aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a à peu près 300 écoles Montessori qui sont publiques. Dans d'autres pays, sont des publics. Et le problème pour moi, c'est vraiment le manque de diversité au sein de l'éducation nationale, qui est vraiment un point faible du système. Parce que si on pouvait dire, voilà, maintenant je peux expérimenter avec d'autres méthodes parce que mon enfant ne va pas bien dans l'école du quartier, donc je vais chercher autre chose qui est encore publique, ça va tout changer. Et il y a déjà dans le système public en France les écoles freinées, par exemple, qui sont publiques, mais extrêmement rares. Il y a, à peu près une vingtaine d'écoles. Il y a donc la ville en Belgique, à Gand, il y a un conseil pédagogique qui a vu les méthodes freinées, qui a dit « Bon, c'est une bonne idée, je vais essayer ça chez nous. » Et maintenant, dans la ville de Gand, il y a plus d'écoles freinées que dans toute la France. Donc là, du coup, simplement pour vous dire...
Vous décrivez une forme de crispation, voilà, mais on l'a bien compris.
Si jamais on pouvait laisser donc cette diversité aussi dans le système public, ça changerait énormément de choses.
Arnaud Parianti.
Oui, j'avais envie de réagir en vous entendant, parce que je comprends bien votre argument. Le problème, malgré tout, c'est la question de l'égalité financière d'accès à ces enseignements différenciés. Les écoles Montessori, enfin, je sais pas, je lisais un article l'autre jour qui disait que maintenant c'est devenu la grande mode parmi les enfants des patrons du CAC 40.
Oui, mais c'est aussi donc c'est vraiment on est dans
c'est aussi des
instruments. Non, mais ça c'est extrêmement français, donc cette notion de distinction. Bah oui. Mais évidemment, et surtout les Montessori bilingues, qui sont parfois ni Montessori ni bilingues, mais ça c'est une autre question.
En Angleterre, par exemple, l'école n'est pas distinctive en Angleterre.
Ah non, mais c'est sûr.
Elle n'est pas structurée sur le plan de l'origine sociale des élèves.
Alors attendez,
si vous
regardez dans le pays, dans le monde entier, oui, et vous allez regarder les performances scolaires et les revenus donc des parents, vous allez trouver une corrélation plus ou moins parfaite. Donc aux États-Unis, c'est clair. Donc le plus riche, alors on peut voir les SAT scores, les SAT scores, et c'est un peu comme le bac. On peut dire, voilà, si vous avez mention très bien au bac aux États-Unis, ça veut dire que vos parents ont un revenu de 100 000 dollars par an. Et alors, là, en France, on n'est pas encore là, mais de plus en plus, on est là, parce que les inégalités de l'école sont plus importantes en France que dans tous les autres pays de l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. On est à peu près avec les Bulgares et les Chiliens. Et c'est ça un peu bizarre pour un pays où le mot égalité est quand même inscrit sur chaque école.
Au fronton des écoles, voilà qui nous offre une transition vers la rubrique de Libby Cousteau, vous allez voir. Libby Cousteau, donc, pour un focus sur la journée du refus de l'échec scolaire.
Absolument. Cette journée organisée par la FEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, dont Christophe Paris nous fait l'honneur aujourd'hui rue des écoles. Donc, la FEV, c'est une association qui a réuni un réseau de 7000 étudiants qui les accompagnent dans des missions de solidarité dans les quartiers, justement dans ces quartiers où l'école, on le sait, en France, est inégalitaire. Surtout, la FEV, elle fait de l'accompagnement individualisé, donc de la maternelle au lycée, et c'est notamment pour cette raison qu'on s'y intéresse. Alors cet accompagnement, il a une particularité, ce n'est pas du soutien scolaire lambda, il a une approche globale. Les étudiants sortent par exemple leurs élèves en bibliothèque, au cinéma, ils tissent un lien en fait avec ces enfants, ou ces lycéens, ces collégiens, et aussi avec leur famille.
Et chaque année, depuis 8 ans, la FEV donc organise une journée du refus de l'échec scolaire.
Oui, alors elle a lieu le 23 septembre cette année et ce sera l'occasion d'un débat sur les alliances éducatives qui font bouger le système. C'est un sujet que connaissent bien les étudiants de la FEV qui sont sur le terrain. La FEV du coup a mené une étude, une enquête auprès de 653 collégiens scolarisés dans les REP ou les REP+, autour du thème de la citoyenneté. Alors, je ne vais pas dévoiler les résultats, mais je vais faire un peu de teasing, comme on dit. C'est un sujet d'actualité, vous savez, puisqu'après les attentats de Charlie, l'école a été sur le banc des accusés. On l'a accusé notamment de ne plus remplir ses missions en termes de transmission des valeurs républicaines. Donc la FEV a été enquêtée pour essayer de comprendre la vision des collégiens, la vision qu'ils ont de leur collège, l'intérêt qu'ils portent au collège, ce qu'ils y trouvent, ce qu'ils n'y trouvent pas, ce qu'ils aimeraient y trouver, et les réponses qu'ils cherchent ailleurs, par exemple auprès de leur famille, de leurs copains, etc. Alors voilà.
On va en savoir un peu plus sur cette enquête et puis aussi sur les alliances éducatives, hein, puisque c'est le thème cette année avec votre invité, hein, Libby.
Absolument. Alors Christophe Paris, j'ai envie de vous demander, cette enquête, qu'est-ce qu'elle vous a appris en fait, au-delà du chaud, de ce qu'on a appris à chaud sur l'après Charlie?
Ce qu'on a remarqué dans l'enquête qui sera publiée mercredi, c'est qu'il y a une nuance qu'il n'y avait pas au moment de l'analyse. Effectivement, beaucoup qui ont été très marqués par les événements qui ont touché les journalistes. Et donc, on est plutôt sur une minorité qui sont plus proches d'une colère vis-à-vis des caricaturistes. Mais plus globalement, ce qui ressort, c'est cette... juste après les événements, on l'a beaucoup nous remarqué sur le terrain, c'est la difficulté à faire débat. Difficulté des enseignants, difficulté de l'ensemble des adultes à pouvoir s'inscrire dans un débat constructif parce qu'il y en a qui se sentaient Charlie, d'autres qui se sentaient pas Charlie.
Mais cette frustration...
Et que c'était pas forcément très grave qu'ils se sentent pas Charlie parce qu'ils avaient je mets de côté ceux qui étaient dans la provocation, etc. Mais il y a eu vraiment une très grande difficulté des enseignants et puis plus globalement un constat que en France, avoir un débat sur des sujets compliqués, c'est difficile.
Et alors, est-ce que ces collégiens, ils ont été frustrés vraiment de ne pas avoir le débat qu'ils auraient voulu avoir, de ne pas avoir pu s'exprimer? Et est-ce que le collège, c'est vraiment le lieu où ils auraient voulu avoir ce débat? Et est-ce qu'il est propice à ce débat?
Non, pour eux, le collège, c'est pour apprendre.
D'accord, c'est tout.
Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de dichotomie entre... En fait, quand on dit, on rajoute après Charlie une pression supplémentaire à l'école en plus de tout, il faut reprendre les questions de citoyenneté, etc. Et puis le sentiment des collégiens de dire, ben oui, on nous parle beaucoup de citoyenneté, mais c'est pas très citoyen le fonctionnement du collège. Donc il y a une sorte de dichotomie, mais qui est assez caractéristique de la France et en général et de l'éducation en particulier, c'est que on parle beaucoup. Et qu'il y a de plus en plus un décalage entre ce qu'on raconte théoriquement et puis comment c'est vécu. On est le pays qui parle le plus d'égalité, l'égalité républicaine, une école pour tous, partout, etc. Puis en réalité, on est l'un des pays qui renforce le plus les inégalités sociales. Je dirais, la question de l'éducation de la citoyenneté, c'est aussi ça. Donc moi, je pense que c'est extrêmement important ce qui est en train de se mettre en place sur les cours à la citoyenneté, etc. Mmh. Comment ça rajoute pas une pression aux enseignants.
L'éducation morale et civique, vous voulez.
Oui, morale et civique, excusez-moi. Morale et civique. Comment ça ne rajoute pas une pression supplémentaire aux enseignants? Comment aussi il peut y avoir d'autres acteurs que les enseignants? C'est
l'intérêt des alliances éducatives et puis comment, bah, c'est aussi, on est attentif à comment ça fonctionne dans l'école pour que ce qu'on raconte sur la citoyenneté, l'éducation civique soit aussi en correspondance avec le vécu.
Qu'appelez-vous les alliances éducatives justement, Christophe Paris ?
C'est un sujet, on a beaucoup hésité avant de choisir ce thème d'alliance éducative qui est tout à fait abscon, qui est tout à fait théorique.
Et ça, vous l'avez choisi.
Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on va réutiliser ce mot valise ? Et on l'a assumé parce qu'à un moment donné, on se tape la tête contre les murs en France. Parce qu'on est tous, grosso modo, on sait que l'école fonctionne globalement bien en France, qu'on y met beaucoup de moyens, mais au regard de ça, il y a un échec massif, important et scandaleux, 150 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans qualification, il y a des inégalités sociales qui se creusent, et donc tout le monde est d'accord qu'il faut améliorer le système, le refonder, le repenser, tout le monde est d'accord, et les choses avancent très, très peu, je dirais, pour l'éducation, le slogan, c'est le changement, c'est lentement, quoi. Et donc, on le voit bien avec le collège et la réforme du collège que tout ça va être compliqué, alors que le collège appellerait une réforme massive. Et donc, les alliances éducatives, pour nous, c'est essayer de faire, comme disent les enseignants, notamment freiner la pédagogie du détour. C'est-à-dire, comment on arrête de viser par le haut une réforme globale d'un grand soir de l'éducation et on se dit, localement, comment on peut agir et comment on met des acteurs, comment on légitime tout le monde à agir avec les enseignants à côté, comment un club de foot qui commence à en plus de leur entraînement, ben, mettre à disposition une salle pour les devoirs. Il y a tout un tas d'initiatives locales qui sont faites et qui participent aussi à changer l'école.
Donc en fait, ce que vous dites, c'est que dans ces quartiers populaires, ces enfants qui ne peuvent pas, eux, se payer les écoles privées dont on a parlé aujourd'hui, c'est plutôt les associations autour, les partenaires autour, les alliés éducatifs, en fait, qui vont combler cette mission que l'école ne peut pas forcément ou le collège n'assume pas. En fait, c'est ça, vous avez compris.
On n'assume pas seul.
Oui, ils assument déjà plein de choses. Après,
c'est juste un constat.
Et puis surtout, il y a tout un tas de gens qui peuvent être plus compétents que les professeurs pour faire d'autres choses que l'enseignement. Les alliances éducatives sont pas là pour refaire ce que font des officines privées. Nous, la FEV, on n'est pas l'Académia des pauvres. D'ailleurs, l'Académia, il y a plus d'argent mis par l'État en France pour les dégrèvements fiscaux que l'argent qui est mis sur les ZEP.
Donc, Arnaud Parientier en parle.
Voilà. À un moment donné, c'est bon. Mais pour revenir à la question des alliances, il y a tout un tas d'acteurs qui sont prêts à leur niveau, sans remettre en cause les enseignants, sans remettre en cause l'école, à dire, ben nous, on peut filer un coup de main. Les citoyens, on l'a bien vu, là, la dynamique qu'il y a eu autour, la démarche de mise en place par le ministère de l'Éducation nationale, et la réserve citoyenne. Bon, voilà, il y a des gens qui sont prêts à faire, comment on l'assume, et on voit localement que ça se passe bien.
Et Christophe Paris, la journée du refus de l'échec scolaire, c'est le 23 septembre. Les références des ouvrages d'Albéric de Serran, Peter Gumbel et Arnaud Parienti sur le site de France Culture à la page de Rue des Écoles. Merci à tous. Dans un instant, c'est Gilles Kepel et à 18h, Olivia Jesbert pour parler des élections en Grèce. Bonne soirée sur France Culture.